Chers frères et sœurs, dans sa première lettre à la communauté de Corinthe, l'apôtre Paul s'exprime en ces termes. Quand l'un dit « Moi, j'appartiens à Paul » et un autre « Moi, à Apollos », êtes-vous autre chose que des humains ? Qu'est-ce donc Apollos ? Qu'est-ce que Paul ? Des serviteurs, par l'entremise desquels vous êtes venus à la foi, selon ce que le Seigneur a accordé à chacun. Ainsi donc, frères et sœurs, nous n'appartenons ni à un secteur géographique, ni même à une église particulière. Nous n'appartenons ni à un pasteur, ni à une idéologie, fût-ce le protestantisme. Nous sommes toutes et tous appelés à la foi chrétienne, qui est une manière de placer notre confiance en Dieu, Dieu qui transcende les lieux, Dieu qui transcende les temps, Dieu qui transcende les idéologies, Dieu qui transcende les esprits de chapelle, les idées trop étroites. Nous sommes toutes et tous appelés à la foi, cette foi qui fait de nous tous, sans distinction, un peuple de personnes dont la vie est appelée à être marquée par la paix et par la grâce. Alors, frères et sœurs, que ce culte soit l'occasion pour nous de célébrer la grâce et la paix que nous recevons en abondance de la part de Dieu qui ne fait exception de personne. Levons-nous pour chanter au psaume 118, la première strophe du psaume 118. Louons Dieu avec les mots attribués à David dans le premier livre des Chroniques. Béni sois-tu d'éternité en éternité éternelle, Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Amen. Frères et sœurs, avec le psaume 89, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 de ce psaume 89. Prenons place. Nous reprendrons le psaume 118 pour ponctuer nos prières. Recueillons-nous justement dans une prière d'humilité. Seigneur Dieu, nous avons préféré nos désirs à ta volonté. Nous avons travaillé pour nous plus que pour ton royaume. Nous nous sommes aimés, mais avons-nous véritablement aimé notre prochain et toi-même? Alors pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous de n'avoir pas véritablement changé, de nous être si souvent repentis en vain. Toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, toi qui nous aimes en dépit de tout, accorde notre volonté à la tienne. Et avec ton pardon, accorde-nous la force et la joie de mieux t'aimer, de mieux te servir. Au nom du Christ Jésus, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Chantons en restant assis la deuxième strophe du psaume 118. Dans le livre du prophète Ésaïe retentissent ces paroles, cette exhortation. Écoute, écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Ne crains rien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi, car je répandrai des eaux sur le sol altéré, des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race. Je répandrai ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront au milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-ci se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main à l'Éternel. Et il prononcera avec amour le nom d'Israël. Frères et sœurs, chantons notre reconnaissance pour cet amour inconditionnel qui nous rassemble tous dans un peuple béni au nom même de Dieu. Chantons la troisième strophe du psaume 118 et levons-nous pour cela. Dans l'Évangile selon Matthieu, nous pouvons entendre une autre parole d'exhortation qui inscrit la grâce dans une vie quotidienne, dans une éthique. C'est Jésus qui s'adresse à ceux qui sont autour de lui et qui leur dit « Vous êtes le sel de la terre ». Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds des hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. On la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi, que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Frères et sœurs, nous pouvons dire oui à ce chemin de vie, dire oui à cette exhortation, dire oui à cette éthique que dessine l'Évangile. Dire oui, c'est professer notre foi, et je vous propose de le faire ce matin avec l'Église unie du Canada. Elle s'exprime en ces termes. Nous ne sommes pas seuls. Nous vivons dans le monde que Dieu a créé. Nous croyons en Dieu qui a créé et qui continue à créer, qui est venu en Jésus, parole faite chair, pour réconcilier et renouveler, et qui travaille en nous, parmi nous, par son Esprit. Nous avons confiance en Dieu. Nous sommes appelés à constituer l'Église pour célébrer la présence de Dieu, pour vivre avec respect au sein de la création, pour aimer et servir les autres, pour rechercher la justice et résister au mal, pour proclamer Jésus, ce qui signifie « Dieu sauve », Jésus crucifié et ressuscité, notre juge, notre espérance. Dans la vie, dans la mort. Dans la vie, par-delà la mort, Dieu est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Grâce soit rendue à Dieu. Amen. Et poursuivons l'expression de notre foi par le chant du cantique 544. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 du cantique 544. Éternel, donne-nous ton esprit. Donne-nous ton esprit quand nous cherchons sans trouver, Donne-nous ton esprit quand nous écoutons sans entendre. Donne-nous ton esprit lorsque nous peinons sans récolter. Donne-nous ton esprit. Alors ta parole nous fera vivre. Nous trouverons et nous serons trouvés. Nous entendrons la voix de nos frères et de nos sœurs. Et l'Évangile pénétrera au plus secret de notre être. Amen. Frères et sœurs, les vacances sont à peu près terminées. Elles n'ont certainement pas été ce qu'elles auraient pu être. Je ne suis pas sûr que ceux qui voulaient se rendre en Grèce aient pu le faire. Alors, je vous pose un petit passage biblique dans le livre des Actes des Apôtres. C'est Paul qui est à Athènes. C'est au chapitre 17, à partir du verset 16. Encore un petit relan estival. Il y aura ensuite la prédication pour revenir sur terre. Bien. Donc Paul était à Athènes. Il avait en lui-même l'esprit exaspéré en contemplant cette ville vouée aux idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et ceux qui craignaient Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qui s'y rencontraient. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui, et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres disaient « Il semble être un prédicateur de divinités étrangères. » Cela parce qu'il annonçait la bonne nouvelle de Jésus et de la résurrection. Alors ils le prirent, le menèrent à l'aréopage et dirent « Pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement dont tu parles ?» Car tu portes à nos oreilles des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela veut dire. Or, tous les Athéniens et les étrangers venus parmi eux ne passaient leur temps qu'à dire ou écouter quelques nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Athéniens, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement superstitieux. Car en passant, j'ai observé tout ce qui est l'objet de votre culte, et j'ai même trouvé un autel avec cette inscription à un dieu inconnu. Ce que vous vénérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits par la main des hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose. Il a fait que toutes les nations issues d'un seul homme habitent sur toute la face de la terre. Il a déterminé les temps fixés pour eux. Il a déterminé les bornes de leur demeure, afin qu'ils cherchent Dieu pour le trouver, si possible, en tâtonnant. Or, il n'est pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. Nous sommes aussi de sa race. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'imagination des hommes. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice, par un homme qu'il a désigné, et il en a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Quelques-uns, néanmoins, s'attachèrent à lui et crurent. Parmi eux, Denis, l'Aréopagite, une femme du nom de Damaris et d'autres encore. Frères et sœurs, avant de reprendre ce texte, je vous propose de chanter la quatrième strophe du psaume 118 en restant assis. Chers frères et sœurs, petit retour en arrière à l'époque de Xerxès Ier, le successeur de Darius à la tête de l'Empire perse. En 481 avant notre ère, il décide de reprendre les hostilités contre la Grèce. Et pour préparer la guerre, rien de mieux que de préparer la guerre, et il fait creuser un canal à travers la péninsule avec un pont de 674 bateaux qui relieront les deux rives de ce qu'on appelle l'Hellespont, plus connu sous le nom de Dardanelles. Mais voilà que ce pont de bateaux est détruit par une violente tempête. 674 bateaux, les uns côté des autres, réunis par des cordages. Violente tempête, tout est fichu. Qu'auriez-vous fait à la place du roi? Comment auriez-vous réagi? Prenez le temps d'y réfléchir. Xerxès Ier, roi des Perses, fait donner 300 coups de fouet à la mer. Et il ajoute cette sentence: ô amer, c'est un maître qui t'inflige ce châtiment parce que tu lui as fait tort, sans en avoir subi aucun de sa part. Et le roi Xerxès te traversera, que tu le veuilles ou non, et pour ta punition, aucun homme ne t'offrira de sacrifice à toi qui es un fleuve bourbeux et saumâtre. Accessoirement, il fait aussi couper la tête de ceux qui avaient fait le pont. Voilà, donc j'ai bien entendu les rires qui ont accompagné l'annonce des 300 coups de fouet et je comprends cela parce que c'est quand même une réponse assez inadéquate à la situation. Et si je devais qualifier cette réaction, je dirais qu'elle est quand même assez puérile. Elle est puérile parce qu'elle témoigne d'un manque de jugement semblable à ce qui peut caractériser les enfants qui ignorent bien des paramètres en jeu dans le cours des événements et qui pensent que les objets sont animés de la même manière que nous le sommes, avec une conscience, avec une volonté propre. Et quand les objets, les jouets par exemple, ne font pas ce que nous voulons, alors il faut les punir. Les adultes font ça aussi avec les ordinateurs. Quand ça ne marche pas comme on veut, des fois ça finit contre le mur. La mère, jusqu'à preuve du contraire, ne choisit pas de se déchaîner ou d'embêter tel ou tel. À supposer que ce soit le cas, on comprend mal pourquoi, dans ce cas, elle aurait mis par exemple fin au jour d'un véritable amoureux de la mer, il y a 22 ans, Éric Tabarly. Et il en va de même donc avec notre ordinateur et tous les objets connectés que nous avons. Plus la technologie est grande, plus nous avons l'impression qu'ils ont une sorte d'autonomie. En vérité, ce n'est pas de la faute de ces objets si nous n'arrivons pas à faire ce que nous voulons. C'est soit de la nôtre, soit éventuellement de la faute du programmeur. Et ce sont les enfants qui, de rage, le plus souvent, tapent, jettent, cassent la cause de leur énervement dans le but de le punir. L'idée de punir un objet qui, finalement, n'y est pour rien, est quelque chose d'assez puéril. Comme si le mécano récalcitrant, la robe un peu trop ajustée à la poupée, le trait de contour porté sur la feuille blanche allait être plus docile une fois la tige pliée, la manche arrachée et la feuille déchirée. À l'âge adulte, en principe, cette manière d'agir passe. Ou pas. Et si elle demeure, elle se métamorphose dans une vision du monde que l'on pourrait qualifier de superstitieuse. C'est le terme employé par l'apôtre Paul pour commenter ce qu'il observe à Athènes. Lui qui, dit le rédacteur, est assez exaspéré par ce qu'il voit. C'est tellement étranger à sa foi qu'il n'en peut plus. Les Athéniens, qui ont érigé de nombreuses représentations de divinités, manifestent leur vision d'un monde entièrement gouverné par les divinités, que l'on pourrait aussi appeler des forces surnaturelles. Qu'il s'agisse de surnaturel ou de superstition, dans les deux cas, il s'agit de comprendre notre monde comme un univers à deux dimensions. Il y a la dimension humaine, d'une part, celle que nous connaissons, celle que nous voyons, celle que nous ressentons, celle que nous comprenons tant bien que mal. C'est celle où nous faisons histoire. C'est là où nous avons quelques leviers. Et puis, il y a la dimension divine, d'autre part, qui pourrait être considérée comme une coulisse de l'autre côté de la chair, derrière le mur, là où tout se prépare en douce, là où tout s'organise, là où tout se manigance, là où agissent les puissances qui dirigent le cours des événements qui se produisent dans l'univers humain. Vous êtes certainement familier des mythologies dans lesquelles nous découvrons de nombreuses divinités qui ont chacune des caractéristiques spécifiques et qui interviennent dans l'histoire des hommes. Elles interviennent pour orienter le cours des événements en réaction à ce que font ou pensent les hommes. Ces divinités interviennent directement et les hommes ont donc intérêt à être diligents à l'endroit de ces divinités s'ils ne veulent pas avoir de problème. Il conviendra alors de sacrifier au bon plaisir de la divinité, c'est-à-dire d'obéir à ses règles, de régler notre propre conduite sur ce qui lui convient, pour maintenir cette divinité dans de bonnes dispositions. Et c'est ainsi que nous pouvons espérer attirer ces bonnes grâces sur nous-mêmes. Si la mythologie est un ensemble de récits qui essaie de décrire des mécanismes à l'œuvre dans notre monde, des récits symboliques en fait, qui mettent à jour des phénomènes qui ne sont pas d'ordre matériel. Eh bien, certains prennent ces récits, ces mythes, au pied de la lettre. Et ils considèrent qu'il y a effectivement en coulisses des êtres surnaturels, bien physiques, qui interagissent avec notre histoire. Et l'apôtre Paul, qui récuse l'attitude superstitieuse des Athéniens, qui ont érigé des divinités faites d'or, d'argent ou de pierre, récuse tout autant une vision du monde à deux niveaux, à deux dimensions, puisqu'il déclare que nous sommes de la race de Dieu. Cette petite phrase assez anodine disqualifie cette idée selon laquelle nous serions dans un monde à deux dimensions, avec le niveau humain et le niveau divin. Pour le dire avec un terme légèrement technique, il semble que pour Paul, il n'y ait pas de supranaturalisme. Il n'y a pas d'un côté la nature dans laquelle nous sommes et par-delà une autre dimension divine. Autrement dit, si je m'en tiens à ce que l'apôtre Paul écrit ici, Dieu n'est pas un être plus surnaturel que nous. Dieu partage notre nature ou, plus précisément, notre nature est divine. C'est un peu ce que disent les orthodoxes au moment du baptême, qui est une chrismation de celui qui est baptisé, qui lui permet de prendre conscience qu'il participe à la nature divine. Selon Paul, il n'y a pas d'un côté des êtres surnaturels qui seraient dotés d'une conscience capable d'intervenir dans le cours de l'histoire et de faire mourir Éric Tabarly en mer parce que quelqu'un a posé une miche de pain du mauvais côté sur la table. Et de l'autre, les êtres mortels que nous sommes, qui seraient soumis à la volonté d'être surnaturels et qui ne devraient leur survie qu'au respect scrupuleux de leurs désirs. Nous sommes de la race de Dieu. C'est une phrase que l'on n'entend que trop rarement et que l'on n'utilise que trop peu souvent pour notre compréhension de ce que nous sommes. Nous sommes de la race de Dieu, ce qui signifie que Dieu n'est pas en coulisses du théâtre de la vie ou à un poste de pilotage du monde. Ce qui signifie qu'en toute chose, notre responsabilité personnelle est engagée directement sur le cours des événements. Vous pouvez toujours croiser les doigts pour avoir une bonne note, il reste que c'est le travail personnel qui vous permettra de réussir un examen ou un concours. Vous pouvez toujours toucher du bois pour que l'offrande tout à l'heure au culte soit mirobolante, il n'empêche que cela dépendra de l'argent que vous mettrez dans les aumônières qui passeront. Oui, le christianisme n'a pas été en reste avec les superstitions. Ne nous imaginons pas au-dessus de la mêlée. Des superstitions qui ont même été parfois rendues officielles. Et aujourd'hui encore, les superstitions ne manquent pas dans les assemblées chrétiennes. Et c'est pourquoi il nous appartient de faire de la théologie pour débusquer ce qui, dans la religion, relève de la superstition d'une part et relève de la spiritualité d'autre part. Et pour cela, souvenons-nous par exemple du formidable travail de Jean Calvin dans ce savoureux traité des reliques. On devrait toujours relire au moins tous les 3 ans le traité des reliques. Je vous en lirai quelques passages. Le but de Calvin, qui était aussi exaspéré que Paul par ce qu'il voyait autour de lui, a estimé qu'il était temps d'écrire pour démonter ce mécanisme des reliques, qui était l'occasion de superstitions qui dédouanait les chrétiens de son époque de leurs responsabilités. Souvenons-nous, par exemple, qu'il faisait remarquer à ses contemporains que si on rassemblait tous les bouts de la croix de Jésus qui sont exposés dans les églises, on aurait un beau grand bateau. Peut-être même 674 bateaux qui permettraient de reconstituer le pont de Xerxès Ier. Et il ajoutait, je cite, « L'Évangile testifie que la croix pouvait être portée d'un homme. Quelle audace a-ce été de remplir la terre de pièces de bois en telle quantité que 300 hommes ne le sauraient porter. Et de fait, ils ont forgé cette excuse que quelque chose qu'on en coupe, jamais elle ne décroît. Mais c'est une bourde si sotte et lourde que même les superstitieux la connaissent. Dans un autre passage, Calvin parle de l'abbaye de Charroux, à Poitiers, qui se vante d'avoir le prépuce de Jésus de Nazareth, tout comme Saint Jean de Latran à Rome. Tous ces phénomènes que Calvin considère comme des superstitions perverses, je le cite, donnent une image du monde où l'être humain n'est qu'une marionnette aux mains d'êtres surnaturels qui en disposent à leur gré, ce qui n'est ni glorieux pour l'humanité ni pour la divinité. Mais le pire, c'est que cela donne une vision erronée de la marche du monde qui ne peut conduire qu'à de graves déconvenues, de graves déceptions quand on se rend compte que les événements ne doivent rien à des forces que l'on pensait agissantes. Ainsi donc, Il ne suffit pas de posséder sur soi ce genre de gris-gris. N'essayez pas tout à l'heure de m'arracher un bout de cheveux. Ça ne vous protégera contre rien du tout. Au pire, ça vous encombrera. Et ainsi de suite. Vous voyez cette idée selon laquelle la possession d'un quelque chose nous préserverait d'un malheur qui n'a aucun rapport de causalité avec ce quelque chose. Il arrive aussi parfois que les superstitions conduisent à des phénomènes de soumission à des personnes qui incarnent une autorité d'ordre spirituel et qui peuvent en profiter pour extorquer de copieuses sommes. Il y a 4 jours, la presse suisse se faisait l'écho d'une femme habitant Lugano qui a donc consacré plusieurs centaines de milliers de francs pour se faire débarrasser du mauvais œil, pour au final se retrouver non seulement dévalisée, mais battue et larguée à 350 km de chez elle. Autant vous dire que le mauvais œil a plutôt augmenté. Oui, il est possible de guérir du malheur, mais non pas par un exorcisme qui consisterait à éloigner des forces surnaturelles qui se déchaînent sur nous. Il est possible de guérir du malheur parce que pour une part, nous faisons partie de l'équation du malheur, et que nous portons sur le cours des événements, sur les autres aussi, un regard qui ne permet pas de saisir les opportunités positives à saisir, qui ne permettent pas de remarquer les compliments, les choses positives qui sont dites, et de pouvoir en faire son miel. C'est comme si nous étions obsédés et attirés par toutes les négativités, et à force de ne consommer que de la négativité, nous sommes nous-mêmes dans un univers extrêmement négatif. La foi chrétienne est tout à l'opposé de cela. La foi chrétienne, cette confiance en Dieu, est une façon d'adhérer à une puissance de vie, ce qui provoque le mouvement, ce qui provoque l'être, ce qui donne le souffle. Cela signifie que nous sommes ce à quoi nous sommes sensibles, toutes ces choses positives qui font grandir l'humanité, toutes ces choses positives qui élargissent la fraternité. Et c'est en ce sens que la foi peut être un véritable remède au malheur. Non pas parce que rien de fâcheux ne nous arriverait, mais parce que notre regard ne s'épuise pas sur les malheurs qui arrivent. Pour Paul, Dieu n'est pas un marionnettiste. Il n'est pas non plus un être qui, en cherchant à punir celles et ceux qui n'agissent pas selon sa volonté, se révélerait finalement assez capricieux. Comme cet enfant qui est en colère contre sa poupée parce que sa poupée ne veut pas mettre la robe qui est trop serrée. Dieu est du côté de l'être, écrit l'apôtre Paul. Il est du côté du fondement de l'être et du mouvement, dit-il au verset 28. Il est du côté de ce qui donne du souffle à notre vie, écrit-il au verset 25. Et c'est en ce sens que nous avons à nous repentir. Il s'agit d'approfondir notre compréhension de la vie. Il s'agit de sortir du temps de l'ignorance dont il est question au verset 30, qui caractérise l'enfance, pour découvrir à la suite de Jésus un ordre du monde qui n'est pas fait de superstition. Et cela implique d'adopter une démarche scientifique pour comprendre le fonctionnement du monde. Souvenons-nous que dans la Bible, le premier texte scientifique, c'est Genèse 1. En disant que le soleil et la lune sont des créatures, c'est une manière pour le rédacteur de dire que ce ne sont pas des divinités. Ce sont des choses que l'on peut observer, examiner, que l'on peut passer par le crible de la démarche scientifique, et ainsi de suite. Le monde tel qu'il est présenté dans Genèse 1 est un monde qui peut être regardé et qui doit être regardé avec un regard scientifique, pour ne pas être sous le coup d'une vision mythologique du monde qui nous empêcherait d'avoir le moindre degré de liberté. Le jugement opéré par Jésus, dont il est question sous la plume de l'apôtre Paul, correspond justement, me semble-t-il, à cette opposition farouche à tout ce qui pourrait nous donner le sentiment que l'histoire se joue ailleurs que chez nous, comme si nous étions dépossédés de la suite de notre histoire. Jésus, en permanence, nous raccroche à notre propre histoire et fait de nous des acteurs de notre propre histoire, quand bien souvent nous en sommes comme dépossédés. Jésus s'est efforcé de rompre tous les liens de causalité qui réduisaient notre responsabilité personnelle à presque rien. Alors que l'Évangile consiste justement à nous rendre éminemment responsables de nos pensées, de nos paroles, de nos actes. L'Évangile qui casse aussi des liens de causalité qui ne sont que des chimères. Nulle fatalité sous la plume des rédacteurs des Évangiles. Nulle fatalité à un ordre supérieur des choses dans la vie de Jésus, mais une prise de responsabilité permanente qui témoigne de sa liberté. Jésus, c'est celui qui échappe en permanence à toutes les superstitions, à tous les pouvoirs surplombants et coercitifs. Le confort des hommes ne lui laisse pas de place pour naître. Dieu désigne un lieu qui n'est pas naturel pour s'installer, une mangeoire, mais qui permet de venir au monde. Le pouvoir politique veut l'éliminer par peur de la concurrence. Dieu désigne un territoire qui n'est pas naturel pour vivre, car il symbolise la servitude de l'Égypte, mais qui libère pourtant la capacité de vie d'une jeune famille. Les maîtres du temple, les Sadducéens, veulent réduire au silence le maître de l'Évangile. Eh bien, Dieu désigne les véritables critères de sagesse, non ce qui favorise l'institution, mais ce qui favorise la vie sociale. Des pharisiens veulent assimiler un malade à une faute ou à la faute de ses parents. Dieu désigne la rupture qu'il y a entre la faute et la maladie. Et il établit un lien entre handicap et humanité véritable. Des hommes cupides profitent de l'inquiétude des hommes pour faire commerce de leur superstition à l'entrée du temple. Dieu désigne le culte en vérité, qui est la disposition intérieure de l'homme, la foi, la confiance que nous avons dans le fait que la vie recèle de tout ce qui nous est nécessaire pour avoir une vie satisfaisante, une vie bonne. L'ensemble des assoiffés de pouvoir s'unissent pour mettre fin à la prédication subversive de Jésus, qui incarne si bien le fait que notre vocation consiste à servir et non à être servi. Dieu désigne la vérité qui émanait de ce Jésus. Dieu désigne l'authenticité de la prédication de Jésus. Dieu désigne la qualité supérieure de l'amour qui a été son moteur de vie, par ce que les chrétiens nomment la résurrection, le fait de réveiller et de relever cette vision du monde, de la vie, de la dignité de l'homme, qui ne doit rien à des forces occultes. C'est en vertu de ce travail divin qui consiste à nous faire découvrir le monde sous ses multiples aspects et à nous le faire aimer, que nous pouvons nous retrouver 13 à table, sans craindre pour notre vie, sans avoir besoin d'y ajouter un chat noir, à moins que vous appréciez la présence des chats, ce qui est tout à fait légitime. L'homme est de la race de Dieu. Il n'est soumis à aucune puissance surnaturelle qui serait dans l'arrière-cuisine. Il est libéré de toutes les superstitions. Et il ne se contente pas de ce que la nature peut lui inspirer. En se laissant guider par l'amour que Jésus a incarné, il donne un sens à sa vie, ce qui lui permet d'atteindre des états surnaturels de l'être. L'histoire de Jésus aurait pu s'arrêter dès le départ. C'était le sens de cette petite biographie que je vous ai refaite. Chaque étape était l'occasion pour Jésus d'être arrêté dans son élan. Eh bien, Dieu désigne ce qui, dans notre vie, nous donne la capacité de relancer notre existence, de continuer à écrire notre histoire, alors que nous sommes peut-être tentés de penser que nous sommes arrivés au bout de la page, au bout de notre ouvrage. L'homme est de la race de Dieu, en conséquence de quoi il peut lui aussi aimer ce monde. Dieu, qui a tant aimé ce monde, nous rend capables à notre tour d'aimer ce monde, sans craindre de s'y lancer pleinement, sans redouter ces forces obscures à l'œuvre et capables de nous faire chuter. Que ce soit les conditions climatiques, que ce soit la perversité de quelques-uns, que ce soit l'ignorance de beaucoup d'autres, que ce soit une maladie ou une loi de la physique qui nous contrarie, tout cela est somme toute très naturel. Ce qui est proprement surnaturel, c'est que nous ne soyons pas découragés par les contrariétés, ni par l'adversité. Ce qui est proprement surnaturel, c'est que nous restions capables d'aimer et d'être aimés dans un monde souvent menaçant, pénible, parfois cruel. Ce qui est proprement surnaturel, c'est le bien. C'était tout le sens de ce que disait le pasteur Wilfred Monod quand il écrivait « Le problème du bien ». Car ce qui va de soi, c'est le mal, c'est l'insuffisance, c'est l'erreur, c'est l'inaccompli. Ce qui est proprement surnaturel, c'est que nous soyons de la race de Dieu. D'ailleurs, si je vous l'avais dit comme ça d'entrée de jeu, vous ne m'auriez pas cru. Il faut que ce soit Paul qui l'écrive. Sinon, vous auriez pensé que j'étais très hétérodoxe. Ce qui est proprement surnaturel, c'est que nous soyons de la race de Dieu. C'est-à-dire animés par ce désir insatiable de pousser la vie aussi loin que possible, jusque dans ses moindres retranchements, et de ne laisser aucune place à la moindre superstition. Amen. Au cantique 622, je vous propose de chanter les strophes 1, 3 et 4. Levons-nous pour chanter ce cantique d'encouragement. Prenons place pour partager quelques informations. Je laisse la parole tout de suite à Christian Seller pour nous donner quelques recommandations du côté de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Le tout dans un Novum Testamentum. Grecqué. Dans notre agenda, il y a cette semaine quelques rendez-vous. Jeudi, il y a le culte pause à 12h30 qui se tiendra ici. À 14h30, une étude biblique sur le temple de Salomon. À partir de samedi, ce seront les journées européennes du patrimoine. Il y aura la possibilité de découvrir le cimetière protestant. Le samedi, c'est Valdo Pellegrin qui organisera les conférences et le dimanche, c'est Jean-Marie Lebrun. Ici même, le temple sera ouvert. Roland Dufour sera là pour accueillir. Je crois que Joël Lafilet sera là aussi pour vous proposer quelques objets dérivés qui vous permettront de supporter la chaleur avec des gourdes et de pouvoir vous restaurer, car il ne faut pas oublier de manger avec des petites boîtes pour mettre votre nourriture. Le tout aux armes du temple de Maguelone. Il y aura le lendemain notre culte de rentrée, donc qui rassemblera l'ensemble des protestants de notre agglomération. Il faudra être vigilant, bien sûr, aux gestes barrières parce qu'il y aura plus de monde. Je vous rends attentif au fait que, justement, en raison de la crise sanitaire, nous n'organiserons pas, à la suite du culte, un repas comme nous en avons l'habitude. Donc, il y aura un culte qui sera l'occasion de l'accueil du pasteur Emeline Daudet, de la reconnaissance du ministère du conseil presbytéral. Il y aura aussi baptême et confirmation des catéchumènes qui étaient en quatrième année l'an dernier. Mais ensuite, nous nous séparerons de façon à ne mettre personne dans une situation compliquée sur le plan de la santé. La question sanitaire... j'oubliais que le samedi, le temple est ouvert, mais à 17h, il y a un concert donné par l'ensemble vocal Clair-Garonne. C'est vraiment à ne pas manquer parce que c'est de très grande qualité, de toute beauté, et ce sera agrémenté par 5 textes de théologiens protestants majeurs. La crise sanitaire fait que certains lieux sont réduits en termes de capacité d'accueil, mais il y a aussi des problèmes par rapport aux personnes, et c'est la raison pour laquelle la conférence prévue au mois de septembre sur le fait religieux en entreprise ne pourra pas avoir lieu, car l'intervenant est retenu. Et donc, il ne pourra pas donner cette conférence. Donc, la conférence est annulée. En revanche, compte tenu des dispositions gouvernementales qui ont été annoncées vendredi, de la réflexion du Conseil de secteur, nous envisageons de maintenir le reste des activités. Et je vais reprendre contact avec les différents intervenants pour m'assurer de leur présence et nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure. J'ouvre une petite parenthèse liée à la jeunesse. Les activités jeunesse reprennent. Vendredi, c'est le groupe des jeunes, c'est-à-dire ceux qui sont au lycée, qui se retrouveront ici même à 19h. Si vous voulez plus de renseignements, il suffit d'appeler Clara et vous avez le numéro de téléphone sur la fiche jaune. Lundi 28, ce sont les étudiants et jeunes actifs qui reprennent leurs activités. Et c'est Karine Michel, mais aussi Mélanie Chevron qui sont sur le banc, qui s'occuperont de ce groupe étudiants et jeunes actifs. Donc vous pouvez directement, à la fin du culte, aller les voir si vous avez besoin de renseignements supplémentaires. Avant de parler de l'offrande, j'ai l'impression que j'oublie d'annoncer quelque chose. Christian. Vas-y, vas-y. Et puis de les aider à découvrir la région aussi.
Ah oui, oui, les initiatives sont les bienvenues. Samedi prochain, il y a un groupe d'accompagnement qui a été désigné par le Conseil presbytéral qui se réunira pour organiser justement leur activité au sein de l'église.
Merci. Vous voyez, la crise sanitaire a évidemment eu un retentissement sur toutes les activités professionnelles, associatives. Bien évidemment, notre Église s'en est ressentie. Sur la question des finances, cela n'a pas été sans impact. Et vous voyez, si on s'en était remis à l'ordre des choses, on aurait pu considérer qu'il était normal que ce soit une catastrophe financière. Votre implication, votre sérieux, votre engagement fait que nous ne sommes qu'en recul que de 8% par rapport à l'an dernier à la même époque. Ce qui est bien sûr à rattraper, mais c'est ce qui montre aussi que vous avez considéré que votre responsabilité personnelle n'était pas un vain mot. Et donc, nous en sommes extrêmement reconnaissants. Maintenant, c'est le moment de rattraper les 8% de retard. On va y arriver tranquillement. Et le tout en musique grâce à notre organiste Catherine Henquin. Et il y aura aussi le dispositif de paiement sans contact pour ceux qui souhaitent tout à l'heure à la sortie du culte avec Jean-Robert. Unissons-nous dans la prière. Quand bien même les mots nous manquent pour prier, devant toi, Éternel, nous nous tenons avec tout ce qui fait notre vie, ou peut-être tout ce qui nous manque cruellement. Les petits bonheurs, les liens de tendresse, les questions et les doutes qui nous tenaillent, et ce désir plus que tout que notre vie trouve du sens. Que ta parole nous communique l'espérance qui nous fasse tenir debout sur cette terre. Se tenir devant toi, c'est se tenir à la manière des autres. C'est donc se tenir en leur compagnie, que nous la souhaitions ou non. Être devant toi, c'est être avec celles et ceux qui nous sont chers, avec celles et ceux que nous ne savons pas aimer, peut-être celles et ceux que nous avons blessés, celles et ceux que nous ignorerons parce qu'ils sont au fond du gouffre et qui n'en peuvent plus d'appeler et d'attendre dans leur lieu de réclusion, prison, hôpital, maison de retraite, qu'une espérance soit également disponible pour eux. Alors aide-nous à faire en sorte que chacun retrouve le courage de faire face. Puisse ne pas être dans une situation subie de façon servile. Être devant toi, c'est donc se tenir avec tous, avec les étrangers parmi nous, avec celles et ceux qui se sentent indignes, celles et ceux qui subissent le poids des vexations, celles et ceux qui sont menacés, les demandeurs d'asile, les sans-papiers, mais aussi ceux qui les accueillent. Dans une société qui est finalement trop souvent hostile, donne-nous de leur offrir les regards sympathiques, les gestes de solidarité qui incarnent la fraternité à laquelle nous sommes appelés. Une fraternité large, inconditionnée. Devant toi, c'est se tenir près des lieux de fracture, autour de nous et dans le monde. À ceux et celles qui sont acteurs de réconciliation, la même où nous ne voyons plus de chemin, la même où nous pensons que tout a déjà été essayé, que ta parole ouvre des anfractuosités, ouvre de nouveaux passages et donne-nous d'être des éclaireurs du sens, d'ouvrir de nouvelles voies, de rendre les choses à nouveau possibles, d'être du côté de l'être, du mouvement, du souffle. Et pour cela, nous rassemblons toutes nos prières dans les mots que Jésus nous a laissés, en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous emporte pas dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. » Frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction au nom même de Dieu. Et avant cela, je rajoute encore une petite invitation. Il y a dans notre Église un ardent souci d'être proche des plus jeunes, et notamment des enfants. Et pour cela, nous avons besoin de moniteurs et de monitrices d'écoles bibliques. pour pouvoir les rendre sensibles aux histoires de la Bible, leur faire découvrir ces grands thèmes qui un jour leur seront utiles dans leur vie d'adulte. Donc, si vous vous sentez disposé à animer une séance d'école biblique formée et avec d'autres, une fois de temps en temps, le dimanche pendant le culte, eh bien, adressez-vous à moi ou à Mireille Blanquer et nous ferons affaire dans la mesure du possible. Frères et sœurs, par-delà toutes nos préoccupations, par-delà toutes nos activités, nos engagements, par-delà ce que notre agenda contient pour la semaine à venir ou ce que malheureusement il ne contient pas, ayez bien conscience que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix, en tout temps et de toute manière.